Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine.
Mesdames, messieurs, les types sociaux, l'aristocrate au Canada. Dans le Canada d'Ancien Régime, on ne saurait confondre, comme on le faisait en France, la haute société laïque avec la noblesse, noblesse d'épée, noblesse de robe, noblesse des fonctions gouvernementales. Il ne fallait pas confondre non plus, cela a déjà été dit, seigneurs et nobles. On pouvait être seigneur sans être noble, et noble sans être seigneur. Il en est de même des hautes fonctions militaires, judiciaires ou gouvernementales, qui n'étaient pas réservées à la noblesse coloniale. L'aristocrate sera donc ici l'homme de la classe sociale, qui se situe entre les habitants et la bourgeoisie. Quelle image nous composerons-nous de cette aristocratie coloniale? Contrairement à la classe rurale, qui s'est si bien accordée au pays, ne dirait-on pas la classe aristocratique, assez mal enracinée, cherchant à s'adapter, sans trop y réussir? En France, comme l'on sait, la noblesse n'a guère de rôle dans l'État, si même il n'y a pas danger pour elle de s'en découvrir ou de s'en fabriquer un, domestiqué par le roi, sans autre fonction que celle de premier ornement de la cour. Il lui suffit, comme dit l'historien Philippe Sagnac, de vivre dans un rêve de gloire, nourri, sustenté par les grâces et les faveurs royales. Au Canada, livré à soi-même, ce ne sera donc qu'au prix d'une réaction contre ces mœurs de courtisans que l'aristocratie coloniale pourra organiser sa vie. Y a-t-elle réussi? La première image qui nous vient d'elle, c'est l'image de sa misère. Lisons-nous la correspondance officielle? Quelle étrange impression nous laisse cette longue litanie de plaintes et de pétitions pour faveurs ou pensions? Étalage d'infortune et d'indigence qu'on prendrait pour un interminable défilé d'illustres gueux qui n'aura plus même la pudeur de leur loque. Tous s'y figurent, y compris les plus grands noms jusqu'aux plus modestes officiers de troupe. Ces gens sont-ils vraiment aussi miséreux qu'ils veulent bien le dire? Ne céderaient-ils point par hasard à la manie de tant de leurs pareils de France, pensionnaires du roi, solliciteurs par profession, la main plus souvent tendue que fermée? D'autre part, il y a ce mot de Boisnois et Hocquart qui donne à réfléchir. L'aumône est une vertu plus nécessaire en ce pays-ci que partout ailleurs. La triste vérité, c'est que nous avons affaire à une pauvreté trop réelle. Il n'est pas niable que pour entrer en religion, des filles de grandes familles sont parfois obligées de quêter leur dette. Le cas particulier des officiers de troupe ne souffre pas d'équivoque. Boisnois les trouvait si pauvres que la plupart, affirmait-il, ne trouveraient pas les moyens de passer en France si leurs affaires les y appelaient. Et les raisons de cette indigence, qui déjà ne les entrevoit? L'administration lésineuse de Sa Majesté a certes contribué pour sa large part. C'est fait bien connu. Le roi paie chichement ses serviteurs. Un fonctionnaire, un officier de troupe vient-il à mourir? Aussitôt, invariablement, le gouverneur, l'intendant, sollicite une pension pour les veuves laissées ainsi que leurs enfants dans la dernière nécessité. Les plus hautes fonctions n'échappent pas à cette gueuserie. Monsieur de la Chassaigne, gouverneur de Montréal, décède en 1733. Sa veuve, fille de Charles Le Brel, sœur du baron de Longueuil, sœur d'Iberville, reste sans bien. Cette misère généralisée a pourtant des causes plus profondes, et l'on y découvrirait peut-être l'un des vices du régime. L'habitant pourvoit sans trop de difficultés au placement de ses fils. Pour trouver à s'établir, la vocation agricole leur suffit. Le seigneur, l'officier, sont-ils aussi bien partagés? Chez eux aussi, la famille nombreuse est de règle. Que feront-ils de leurs fils? Vers quelle carrière orienter cette jeunesse qui remplit les manoirs? Le fonctionnarisme, seuls les filles de gentilshommes, à l'encontre des filles d'habitants, nous assurent Boisnois et Hocquart, ont du goût pour le service. Mais le fonctionnarisme politique, judiciaire ou administratif offre-t-il autre chose que des emplois de crève-faim? L'industrie, le commerce exigent des fonds que le plus souvent on ne possède point. Reste le métier des armes. Et là, ça défaut tout la course des bois. Le métier des armes. Les filles d'officiers ont commencé par s'y jeter en foule. Jusqu'en 1724, un tiers des troupes se compose de ces enfants dont un bon nombre ne dépasse pas les 15 ans. En 1731, sur les représentations réitérées de Beauharnois, le roi accepte qu'on fasse entrer dans les troupes un cadet gentilhomme, cadet à l'aiguillette, c'est-à-dire distingué par une aiguillette ou cordon sur l'épaule pour chacune des 28 compagnies. En 1734, 28 autres de ces filles de gentilshommes sont autorisés à entrer dans les compagnies en qualité de soldats cette fois. Qu'était-ce que ces menus emplois pour tant d'aspirants? Aussi, de Guernasse, quelques-uns de ces jeunes Canadiens accepteront-ils de s'exiler et d'aller servir en dehors de leur pays, à l'île Royale, en Louisiane et même aux îles, sans pourtant empêcher de véritables tragédies familiales? Quand de Villiers est tué à l'affaire de l'abbé en 1733, il a avec lui 6 de ses filles et 2 gendres. Il laisse une veuve avec 10 enfants et très peu de fortune. Un moyen s'offrait, dira-t-on, d'arracher ces gens leur malheur, les fixer à la terre. Et il n'est que trop vrai, au dire de Beauharnois et Hocquart, qu'on a de la peine à engager les filles de gentilshommes à faire valoir des terres. Mais aussi, comment la terre pouvait-elle bien attirer cette jeunesse que les autorités coloniales poussent de leur mieux vers la carrière des armes, vers les postes de traite? Les filles de famille, les filles d'officiers, où les trouve-t-on à l'époque? Sinon dispersées depuis la Louisiane et les Illinois jusqu'à l'île Royale. Repentigny a 6 ou 7 enfants au service, Hertel 5, Tilly 6. Toutefois, il faut bien le dire, plus que tout le reste peut-être, un travers explique la misère de ces grands de la colonie. Travers de classe, préjugés, on ne peut plus, 18e siècle, partagé par la haute société de France et qui est de vivre au-dessus de ses moyens. Pour se justifier de sa pauvreté, comme on invoque facilement la nécessité de faire honneur à son emploi, à son rang, pour soutenir sa dignité, on croit normal de se jeter dans les dettes, de prendre le risque de la ruine. Ces illustres commandeurs qui se plaignent de n'avoir pas le sou et qui ne l'ont point n'en mangent pas moins si nous en croyons calme dans de la vaisselle de porcelaine de Hollande avec des cuillères et fourchettes d'argent. La Nouillée, qui est un banqueroutier, a de la vaisselle d'argent. Les dîners de ces messieurs se composent d'une grande variété de mets arrosés de Bordeaux. Les femmes d'officiers, nous confient à Carre, aiment la dissipation. Ni elles, ni leurs hommes ne ménagent guère sur le costume. Et aux heures de la brève prospérité, l'on s'est bâti des hôtels presque somptueux. Ainsi, tous ces grands se ruinaient pour la gloire de leur maison et pour celle du roi. Tableau de misère que celui-là. N'en pourrait-on brasser aussi facilement un autre qui ne manquerait pas de grandeur? On se rappelle la part prise par les grands de la colonie à son développement économique. La simple liste des seigneuries concédées en Nouvelle-France témoigne à elle seule du rôle des seigneurs dans l'œuvre du défrichement. Tous n'ont pas fait un succès de leur seigneurie, mais que de circonstances les ont desservies. En 1740, Beauharnois et Hocquart procèdent à la réunion au domaine de 20 grandes propriétés. Sur ces 20 propriétaires, un quart au moins sont en service commandé dans les pays d'en haut ou autres lieux. En France, le règne des banquiers, devenu mécène à l'égal des princes et des rois, les techniques nouvelles importées d'Angleterre, le développement des sociétés anonymes qui dispensent les gentilshommes d'afficher leur nom au fronton d'une usine ou d'une boutique, tout ce nouveau a développé jusque dans les hautes classes la passion de l'argent, le vertige de la fortune. Se pouvait-il qu'on ne s'en ressentît point au Canada? En général, dans un pays aussi pauvre que celui-ci, on fait peu de cas d'une place honorable où il n'y a point de profit. Ce petit mot échappé en 1732 à Beauharnois et Hocquart nous révèle l'esprit pratique des nouvelles générations. Parmi ceux qui trempent dans la contrebande du castor et dans le commerce étranger, il n'est pas rare que ne s'y mêlent un procureur du roi et des personnages de plus haute volée. Dans les toutes dernières années du régime, avec quelle fougue les officiers et fils des grandes familles vont se ruer à l'enchère des postes de traite, aubaines sans pareil, où d'après Franquet, l'on peut récolter chaque année 30-50 000 livres et bien davantage. Mais à côté de ceux-là, que d'autres qui travaillent plus solidement. De grands noms, on s'en souvient, apparaissent dans l'industrie, presque autant dans le commerce maritime. Et combien séduisante. Encore, serait l'histoire militaire de ces galonnés, jeunes et vieux. En France, pour la noblesse tenue en bride et dans l'oisiveté forcée, la guerre, c'est la délivrance, c'est le printemps sacré. En Nouvelle-France, la même effervescence se produit au moment de la guerre de 1744-48. Nous connaissons déjà quelques-uns des exploits des parties de guerre. Les randonnées d'hiver vers la Nouvelle-Angleterre, les courses incroyables entre la Louisiane et l'Acadie. Au tableau d'honneur dressé par Bois-Noir figurent les aînés, les chefs de parti. Mais il y a aussi la jeunesse qui piaffe, les cadets dont on nous dit qu'ils ont donné plus de peine à arrêter leur ardeur qu'à faire agir et qu'ils n'arrivaient pas plus tôt d'un parti qu'ils redemandaient à retourner tant l'hiver que l'été à tous les échelons de la société. Une idée, une mystique qui leur vient de la chevalerie soutient ces hommes, le service du roi, ou comme ils disent tout court, le service. Entendez Hocquart Vieilly qui sollicite son rappel en France. J'ai sacrifié avec joie au service du roi et ma jeunesse et les espérances que je pouvais avoir d'un établissement avantagé. Même mot et même résonance, sous la plume du sieur Levasseur, ingénieur des chantiers navals, qui subsiste malaisément au pays, qui est surchargé de besogne, qui doit voir aux fortifications et l'hiver parcourir les bois du lac Champlain à la recherche de bois pour ses chantiers et qui écrit au ministre « Je me suis prêté à tout avec joie, ne pouvant en sentir de plus vive que de me rendre utile au service. » Non moins noble, ces paroles de la Vérendrye, rebuté, malheureux, qui écrit lui aussi au ministre « Je me suis sacrifié avec mes enfants pour le service de sa majesté et le bien de la collectivité. » De telles paroles, une telle qualité d'âme nous renseigne sur l'état de société à laquelle ces hommes s'appartiennent. Et nous apercevons du même coup ce que fut leur rôle social. Le Canada leur a dû d'avoir formé ici une école de savoir-vivre, de bonnes manières, de grand air. Boileau ramenait à ceci le type du gentilhomme français, savoir et converser et vivre. Ces grands de la colonie ont connu et pratiqué toutes les élégances de leur temps. Ils comptent parmi eux 73 familles authentiquement nobles. Le ferment a fait son œuvre. Ils ont donné dans le jeu trop cher à la noblesse oisive de Versailles. Ils ont abusé des festins. Ils sont parfois bretteurs, se battent en duel. Ils ne répugnent pas aux affaires romanesques, tel cet enlèvement du vaisseau du roi de Mademoiselle André de Laigne, banni pour conduite légère, coup de tête galamment accompli par le sieur de Saint-Vincent fils et par l'enseigne Duplessis. Mais l'on se souvient qu'ils savent orner leur maison d'objets d'art. Ils savent s'habiller peut-être trop. Ils savent manger. Ils connaissent les bons vins de France. Ils savent converser. Et ici, il faudra dire le rôle des femmes, dont on se plaît si souvent à dire qu'elles ont plus d'esprit que les hommes et qui paraissent bien avoir été les vrais reins de la société, polissant sans doute ce que pouvait avoir de trop rude les mœurs des hommes, trop longtemps retenus au loin, dans les postes, dans les forts, à la demi-sauvagerie. Mais le temps nous manque d'achever ce tableau.
Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Un autre cours vous sera donné la semaine prochaine, le même jour, à la même heure et au même poste.